Germinie Lacerteux, chapitre 3. Dans sa rêverie, Mademoiselle de Varandeuil avait fermé les yeux. La parole de la bonne s'arrêta, et le reste de sa vie, qui était sur ses lèvres ce soir-là, rentra dans son cœur. La fin de son histoire était ceci. Lorsque la petite Germinie Lacerteux était arrivée à Paris, n'ayant pas encore 15 ans, ses sœurs, pressées de lui voir gagner sa vie et de lui mettre son pain à la main, l'avaient placée dans un petit café du boulevard où elle servait à la fois de femme de chambre à la maîtresse du café et d'aide aux garçons pour les gros ouvrages de l'établissement. L'enfant, sorti de son village et tombé là brusquement, se trouva dépaysé, tout effarouché dans cette place, dans ce service. Elle sentait le premier instinct de ses pudeurs, et la femme qu'elle allait être, frissonner à ce contact perpétuel avec les garçons, à cette communauté de travail, de repas, d'existence avec des hommes. Et chaque fois qu'elle avait une sortie et qu'elle allait chez ses sœurs, c'était des pleurs, des désespoirs, des scènes où, sans se plaindre précisément de rien, elle montrait comme une terreur de rentrer, disant qu'elle ne voulait plus rester là, qu'elle s'y déplaisait, qu'elle aimait mieux retourner chez eux. On lui répondait qu'elle avait déjà coûté assez d'argent pour venir, que c'était des caprices, qu'elle était très bien où elle était, et on la renvoyait au café tout en larmes. Elle n'osait dire tout ce qu'elle souffrait à côté de ces garçons de café, effrontés, blagueurs, cyniques, nourris de restes de débauche, salis de tous les vices qu'ils servent, et mêlant au fond d'eux les pourritures d'un arlequin d'orgie. À toute heure, elle avait à subir les lâches plaisanteries, les mystifications cruelles, les méchancetés de ces hommes heureux d'avoir leur petit martyr dans cette petite fillette sauvage, ne sachant rien, l'air malingre et opprimé, peureuse et ombrageuse, maigre et pitoyablement vêtue de ses mauvaises petites robes de campagne. Étourdie, comme assommée sous ce supplice de toutes les heures, elle devint leur souffre-douleur. Il se jouait de ses ignorances, il la trompait et l'abusait par des farces. Il l'accablait sous la fatigue, il l'hébétait de risées continues et impitoyables qui poussaient presque à l'imbécilité cette intelligence ahurie. Puis encore, il la faisait rougir de choses qu'il lui disait et dont elle se sentait honteuse sans les comprendre. Il touchait avec des demi-mots d'ordure à la naïveté de ses 14 ans, et il s'amusait à mettre les yeux de sa curiosité d'enfant à la serrure des cabinets. La petite voulait se confier à ses sœurs. Elle n'osait. Comme, avec la nourriture, il lui venait un peu de chair au corps, un peu de couleur aux joues, une apparence de femme, les libertés augmentaient et s'enhardissaient. Il y avait des familiarités, des gestes, des approches auxquelles elle échappait et dont elle se sauvait pure, mais qui altéraient sa candeur en effleurant son innocence. Rudoyée, grondée, brutalisée par le maître de l'établissement, habituée à abuser de ses bonnes et qui lui en voulait de n'avoir ni l'âge ni l'étoffe d'une maîtresse, elle ne trouvait un peu d'appui, un peu d'humanité, qu'auprès de sa femme. Elle se mit à aimer cette femme avec une sorte de dévouement animal et à lui obéir avec des docilités de chien. Elle faisait toutes ses commissions, sans réflexion ni conscience. Elle allait porter ses lettres à ses amants et elle était adroite à les porter. Elle se faisait agile, leste, ingénument rusée, pour passer, glisser et filer entre les soupçons éveillés du mari. Et sans trop savoir ce qu'elle faisait, ce qu'elle cachait, elle avait une méchante petite joie d'enfant et de singe à se dire vaguement qu'elle faisait un peu de mal à cet homme et à cette maison qui lui en faisait tant. Il se trouvait aussi parmi ses camarades un vieux garçon du nom de Joseph qui la défendait, la prévenait des méchants tours complotés contre elle, et arrêtait, quand elle était là, les conversations trop libres avec l'autorité de ses cheveux blancs et d'un intérêt paternel. Cependant, l'horreur de cette maison croissait chaque jour pour Germinie. Une semaine, ses sœurs furent obligées de la ramener de force au café. À quelques jours de là, comme il y avait une grande revue au Champ de Mars, les garçons eurent congé pour la journée. Il ne resta que Germinie et le vieux Joseph. Joseph était occupé dans une petite pièce noire à ranger du linge sale. Il dit à Germinie de venir l'aider. Elle entra, cria, tomba, pleura, supplia, lutta, appela désespérément. La maison vide resta sourde. Revenue à elle, Germinie courut s'enfermer dans sa chambre. On ne la revit plus de la journée. Le lendemain, quand Joseph voulut lui parler et s'avança vers elle, elle eut un recul de terreur, un geste égaré, une épouvante de folle. Longtemps, toutes les fois qu'un homme s'approchait d'elle, elle se retirait involontairement d'un premier mouvement brusque, frémissant et nerveux, comme frappée de la peur d'une bête éperdue qui cherche par où se sauver. Joseph, qui craignait qu'elle ne le dénonçât, se laissa tenir à distance et respecta l'affreux dégoût qu'elle lui montrait. Elle devint grosse. Un dimanche, elle avait été passer la soirée chez sa sœur, la portière. Après des vomissements, elle se trouva mal. Un médecin, locataire de la maison, prenait sa clé dans la loge. Les deux sœurs apprirent par lui la position de leur cadette. Les révoltes d'orgueil intraitables et brutales qu'à l'honneur du peuple, les sévérités implacables de la dévotion, éclatèrent chez les deux femmes en colère, indignées. Leur confusion se tourna en rage. Germinie reprit connaissance sous leurs coups, sous leurs injures, sous les blessures de leurs mains, sous les outrages de leurs bouches. Il y avait là son beau-frère, qui ne lui pardonnait pas l'argent qu'avait coûté son voyage, et qui la regardait d'un air goguenard avec une joie sournoise et féroce d'Auvergnat, avec un rire qui mit aux joues de la jeune fille plus de rouge encore que les soufflets de ses sœurs. Elle reçut les coups, elle ne repoussa pas les injures. Elle ne chercha ni à se défendre, ni à s'excuser. Elle ne raconta point comment les choses s'étaient passées, et combien peu il y avait de sa volonté dans son malheur. Elle resta muette. Elle avait une vague espérance qu'on la tuerait. Sa sœur aînée, lui demandant s'il n'y avait pas eu de violence, lui disant qu'il y avait des commissaires de police, des tribunaux, elle ferma les yeux devant l'idée horrible d'étaler sa honte. Un instant seulement, lorsque le souvenir de sa mère lui fut jeté à la face, elle eut un regard, un éclair des yeux dont les deux femmes se sentirent la conscience traversée. Elles se souvinrent que c'était elle qui l'avait placée, retenue dans cette place, exposée, presque forcée à sa faute. Le soir même, la plus jeune sœur de Germinie l'emmenait dans la rue Saint-Martin, chez une repriseuse de Cachemire, avec laquelle elle logeait, et qui, presque folle de religion, était porte-bannière d'une confrérie de la Vierge. Elle la mit à coucher avec elle, par terre, sur un matelas, et l'ayant là toute la nuit sous la main, elle soulagea sur elle ses longues et venimeuses jalousies, le ressentiment des préférences, des caresses données à Germinie par sa mère, par son père. Ce furent mille petits supplices, des méchancetés brutales ou hypocrites, des coups de pied dont elle lui meurtrissait les jambes, des avancements de corps avec lesquels, peu à peu, elle poussait sa compagne de lit, par le froid de l'hiver, sur le carreau de la chambre sans feu. Dans la journée, la repriseuse s'emparait de Germinie, la catéchisait, la sermonnait et lui faisait, avec le détail des supplices de l'autre vie, une épouvantable peur matérielle de l'enfer, dont elle lui faisait toucher les flammes. Elle vécut là 4 mois, enfermée, sans qu'on lui permît de sortir. Au bout de 4 mois, elle accouchait d'un enfant mort. Quand elle fut rétablie, elle entra chez une épileuse de la rue Lafitte, et elle y eut, les premiers jours, la joie d'une sortie de prison. 2 ou 3 fois, dans ses courses, elle rencontra le vieux Joseph, qui voulait l'épouser, courait après elle. Elle se sauva de lui. Le vieillard ne sut jamais qu'il avait été père. Cependant, dans sa nouvelle place, Germinie dépérissait. La maison où on l'avait prise pour bonne à tout faire était ce que les domestiques appellent une baraque. Gaspilleuse et mangeuse, sans ordre et sans argent, comme il arrive aux femmes dans les commerces de hasard et les métiers problématiques de Paris, l'épileuse, presque toujours entre une saisie et une partie, ne s'occupait guère de la façon dont se nourrissait sa petite bonne. Elle partait souvent pour toute la journée sans lui laisser de quoi dîner. La petite se rassasiait tant bien que mal de crudités quelconques, de salades, des choses vinaigrées qui trompent l'appétit des jeunes femmes, de charbon même qu'elle grignotait, avec les goûts dépravés et les caprices d'estomac de son âge et de son sexe. Ce régime, au sortir d'une couche, dans un état de santé mal raffermi et demandant des fortifiants, maigrissait, épuisait, minait la jeune fille. Elle arrivait à faire peur. Son teint devenait de ce blanc qui paraît verdir au plein jour. Ses yeux gonflés se cernaient d'une grande ombre bleuâtre. Ses lèvres décolorées prenaient un ton de violette fanée. Elle était essoufflée pour la moindre montée, et l'on souffrait auprès d'elle de cette incessante vibration qui s'échappait des artères de sa gorge. Les pieds lents, le corps affaissé, elle allait en se traînant, comme trop faible et pliant sous la vie. Les facultés et les sens à demi sommeillants, elle s'évanouissait pour un rien, pour la fatigue de peigner sa maîtresse. Elle s'éteignait là, tout doucement. Quand sa sœur lui trouvait une autre place, chez un ancien acteur, un comique retiré, vivant de l'argent que lui avait apporté le rire de tout Paris. Le brave homme était vieux et n'avait jamais eu d'enfant. Il prit en pitié la misérable fille, s'occupa d'elle, la soigna, la choya. Il la menait à la campagne. Il se promenait avec elle, sur les boulevards, au soleil, et se sentait mieux réchauffé à son bras. Il était heureux de la voir gaie. Souvent, pour l'amuser, il décrochait de sa garde-robe un costume à demi mangé et tâchait de retrouver un bout de rôle qu'il ne se rappelait plus. Rien que la vue de cette petite bonne, son bonnet blanc, était un rayon de jeunesse qui lui revenait. La vieillesse du Jocrisse s'appuyait sur elle avec la camaraderie, les plaisirs et les enfances d'un cœur de grand-père. Mais il mourait au bout de 2 mois, et Germinie retombait à servir des femmes entretenues, des maîtresses de pensionnat, des boutiquières de passage, quand la mort subite d'une bonne la faisait entrer chez Mademoiselle de Varandeuil, logée alors rue Thébout, dans la maison dont sa sœur était portière. Chapitre 4. Ceux qui voient la fin de la religion catholique dans le temps où nous sommes ne savent pas quelles racines puissantes et infinies elles poussent encore dans les profondeurs du peuple. Ils ne savent pas les enlacements secrets et délicats qu'elle a pour la femme du peuple. Ils ne savent pas ce qu'est la confession, ce qu'est le confesseur pour ces pauvres âmes de pauvres femmes. Dans le prêtre qui l'écoute, et dont la voix lui arrive doucement, la femme de travail et de peine voit moins le ministre de Dieu, le juge de ses péchés, l'arbitre de son salut, que le confident de ses chagrins et l'ami de ses misères. Si grossière qu'elle soit, il y a toujours en elle un peu du fond de la femme, ce je ne sais quoi de fiévreux, de frissonnant, de sensitif et de blessé, une inquiétude et comme une aspiration de malade qui appelle les caresses de la parole, ainsi que les bobos d'un enfant demandent le chantonnement d'une nourrice. Il lui faut, aussi bien qu'à la femme du monde, des soulagements d'expansion, de confidence, d'effusion. Car il est de la nature de son sexe de vouloir se répandre et s'appuyer. Il existe en elle des choses qu'elle a besoin de dire et sur lesquelles elle voudrait être interrogée, plainte, consolée. Elle rêve pour des sentiments cachés et dont elle a la pudeur, un intérêt apitoyé, une sympathie. Que ses maîtres soient les meilleurs, les plus familiers, les plus rapprochés même de la femme qui les sert. Ils n'auront pour elle que les bontés qu'on laisse tomber sur un animal domestique. Ils s'inquiéteront de la façon dont elle mange, dont elle se porte, ils soigneront la bête en elle, et ce sera tout. Ils n'imagineront pas qu'elle ait une autre place pour souffrir que son corps. Et ils ne lui supposeront pas les malaises d'âme, les mélancolies et les douleurs immatérielles dont ils se soulagent par la confidence à leurs égaux. Pour eux, cette femme qui balaye et fait la cuisine n'a pas d'idée capitale de la faire triste ou songeuse, et ils ne lui parlent jamais de ses pensées. À qui donc les portera-t-elle? Au prêtre qui les attend, les demande et les accueille, à l'homme d'église qui est un homme du monde, un supérieur, un monsieur bien élevé, savant, parlant bien, toujours doux, accessible, patient, attentif et ne semblant rien mépriser de l'âme la plus humble, de la pénitente la plus mal mise. Seul le prêtre est l'écouteur de la femme en bonnet. Seul il s'inquiète de ses souffrances secrètes, de ce qui la trouble, de ce qui l'agite, de ce qui fait passer tout à coup dans une bonne, aussi bien que dans sa maîtresse, une envie de pleurer ou des lourdeurs d'orage. Il est seul à solliciter ses épanchements, à tirer d'elle ce que l'ironie de chaque jour y refoule, à s'occuper de sa santé morale. Le seul qui l'élève au-dessus de sa vie de matière, le seul qui la touche avec des mots d'attendrissement, de charité, d'espérance, des mots du ciel tels qu'elle n'en a jamais entendus dans la bouche des hommes de sa famille et des mâles de sa classe. Entrée chez Mademoiselle de Varandeuil, Germinie tomba dans une dévotion profonde et n'aima plus que l'Église. Elle s'abandonna peu à peu à cette douceur de la confession, à cette voix de prêtre, égale, sereine et basse, qui venait de l'ombre, à ses consultations qui ressemblaient à un attouchement de paroles caressantes, et dont elle sortait rafraîchie, légère, délivrée, heureuse, avec le chatouillement et le soulagement d'un pansement dans toutes les parties tendres, douloureuses et comprimées de son être. Elle ne s'ouvrait et ne pouvait s'ouvrir que là. Sa maîtresse avait une certaine rudesse masculine qui repoussait l'expansion. Elle avait des brusqueries d'apostrophes et de phrases qui renfonçaient ce que Germinie eût voulu lui confier. Il était dans sa nature d'être brutal à toutes les jérémiades qui ne venaient point d'un mal ou d'un chagrin. Sa bonté virile n'était point miséricordieuse au malaise de l'imagination, ces tourments que se crée la pensée, à ses ennuis qui s'élèvent des nerfs de la femme et des troubles de son organisme. Souvent, Germinie la trouvait insensible. La vieille femme avait été seulement bronzée par son temps et par son existence. Elle avait l'écorce du cœur dur comme le corps. Ne se plaignant jamais, elle n'aimait pas les plaintes autour d'elle. Et du droit de toutes les larmes qu'elle n'avait pas versées, elle détestait les pleurs d'enfants chez les grandes personnes. Bientôt, le confessionnal fut comme un lieu de rendez-vous adorable et sacré pour la pensée de Germinie. Il eut tous les jours sa première idée, sa dernière prière. Dans la journée, elle s'y agenouillait comme en songe, et tout en travaillant, il lui revenait dans les yeux avec son bois de chêne à filet d'or, son fronton à tête d'ange ailé, son rideau vert aux plis immobiles, le mystère d'ombre de ses deux côtés. Il lui semblait que maintenant, toute sa vie aboutissait là, et que toutes ses heures y tendaient. Elle vivait la semaine pour être à ce jour désirée, promis, appelée. Dès le jeudi, des impatiences la prenaient. Elle sentait, dans le redoublement d'une angoisse délicieuse, comme l'approche matérielle du bienheureux samedi soir. Et le samedi venu, le service bâclé, le petit dîner de mademoiselle servi à la hâte, elle se sauvait et courait à Notre-Dame de Lorette, allant à la pénitence comme on va à l'amour. Les doigts mouillés à l'eau bénite, une génuflexion faite, elle passait entre les rangs de chaises, sur les dalles, avec le glissement d'une chatte qui se coule sur un tapis. Inclinée, presque rampante, elle avançait sans bruit dans l'ombre des bas-côtés, jusqu'au confessionnal mystérieux et voilé qu'elle reconnaissait, et auprès duquel elle attendait son tour, perdue dans l'émotion d'attendre. Le jeune prêtre qui la confessait se prêtait à ses fréquentes confessions. Il ne lui ménageait ni le temps, ni l'attention, ni la charité. Il la laissait longuement causer, longuement lui raconter toutes ses petites affaires. Il était indulgent à ses bavardages d'âme en peine et lui permettait d'épancher ses plus petites amertumes. Il acceptait l'aveu de ses inquiétudes, de ses désirs, de ses troubles. Il ne repoussait et ne dédaignait rien de cette confiance d'une servante qui lui parlait de toutes les choses délicates et secrètes de son être, comme on en parlerait à une mère et à un médecin. Ce prêtre était jeune. Il était bon. Il avait vécu de la vie du monde. Un grand chagrin l'avait jeté, brisé, dans cette robe où il portait le deuil de son cœur. Il restait de l'homme au fond de lui, et il écoutait, avec une pitié triste, ce malheureux cœur d'une bonne. Il comprenait que Germinie avait besoin de lui, qu'il la soutenait, qu'il l'affermissait, qu'il la sauvait d'elle-même et la retirait des tentations de sa nature. Il se sentait une mélancolique sympathie pour cette âme toute faite de tendresse, pour cette jeune fille à la fois ardente et molle, pour cette malheureuse, inconsciente d'elle-même, promise à la passion par tout son cœur, par tout son corps, et accusant dans toute sa personne la vocation du tempérament. Éclairé par l'expérience de son passé, il s'étonnait, il s'effrayait quelquefois des lueurs qui se levaient d'elle, de la flamme qui passait dans ses yeux à l'élancement d'amour d'une prière, de la pente où ses confessions glissaient, de ses retours vers cette scène violente, cette scène où sa très sincère volonté de résistance paraissait au prêtre avoir été trahie par un étourdissement des sens plus fort qu'elle. Cette fièvre de religion dura plusieurs années, pendant lesquelles Germinie vécut concentrée, silencieuse, rayonnante, tout à Dieu. Au moins, elle le croyait. Cependant, peu à peu, son confesseur avait cru s'apercevoir que toutes ses adorations se tournaient vers lui. à des regards, à des rougeurs, à des paroles qu'elle ne lui disait plus, d'autres qu'elle s'enhardissait à lui dire pour la première fois, il comprit que la dévotion de sa pénitente s'égarait et s'exaltait en se trompant elle-même. Elle l'épiait à la sortie des offices, le suivait dans la sacristie, s'attachait à lui, courait dans l'église après sa soutane. Le confesseur essaya d'avertir Germini, de détourner de lui cette ferveur amoureuse. Il devint plus réservé et s'arma de froideur. Désolé de ce changement, de cette indifférence, Germini, aigri et blessé, lui avoua un jour, en confession, les sentiments de haine qui lui venaient contre deux jeunes filles, les pénitentes préférées de l'abbé. Le prêtre, alors, l'éloignant sans explication, la renvoya à un autre confesseur. Germini alla se confesser une ou deux fois à cet autre confesseur. Puis elle n'y alla plus. Puis elle ne pensa plus même à y aller. Et de toute sa religion, il ne lui resta plus à la pensée qu'une certaine douceur lointaine et comme l'affadissement d'une odeur d'encens éteint. Elle en était là quand mademoiselle était tombée malade. Pendant tout le temps de sa maladie, ne voulant pas la quitter, Germini n'alla pas à la messe. Et le premier dimanche où mademoiselle, tout à fait remise, n'eut plus besoin de ses soins, elle fut tout étonnée de voir sa dévote rester et ne pas se sauver à l'église. « Ah, ça !» lui dit-elle. « Tu ne vas donc plus voir tes curés à présent ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Hein ?»«
Rien !» fit Germini.
Chapitre 5. Voilà, mademoiselle. Regardez-moi, dit Germini. C'était à quelques mois de là. Elle avait demandé à sa maîtresse la permission d'aller ce soir-là au bal de noces de la sœur de son épicier, qu'il avait prise pour demoiselle d'honneur. Et elle venait se faire voir en grande toilette dans sa robe de mousseline décolletée. Mademoiselle leva la tête du vieux volume, imprimé gros, où elle lisait, ôta ses lunettes, les mit dans le livre pour marquer la page, et fit.
« Toi, ma bigote, toi au bal, sais-tu ma fille, ça me paraît tout farce. Toi et le rigodon, ma foi, il ne te manque plus que d'avoir envie de te marier. Une chienne d'envie. Mais si tu te maries, je te préviens. » Je ne te garde pas. Oust, je n'ai pas envie de devenir la bonne de tes mioches. Approche un peu. Oh, oh, mais, sac papier, mademoiselle montre tout. On est bien coquette, je trouve, depuis quelque temps.
Mais non, mademoiselle, essaya de dire Germini.
Avec cela que chez vous autres, reprit mademoiselle de Varandeuil en suivant son idée. Les hommes sont de jolis cadets. Ils te grugeront ce que tu as, sans compter les tapes. Mais le mariage, je suis sûre que ça te trotte la cervelle, cette histoire-là, de te marier quand tu vois les autres. C'est ça qui te donne cette frimousse-là, je parie. Bon Dieu de Dieu, maintenant tourne un peu qu'on te voit,
dit mademoiselle de Varandeuil avec son ton de caresse brusque. Et mettant ses deux mains maigres aux deux bras de son fauteuil, croisant ses deux jambes l'une sur l'autre et remuant le bout de son pied, elle se mit à inspecter Germini et sa toilette.
« Que diable ! » dit-elle au bout de quelques instants d'attention muette. « Comment, c'est toi ? Je n'ai donc jamais mis mes yeux pour te regarder. Bon Dieu, oui ! Ah, mais !»
Elle mâchonna encore quelques vagues exclamations entre ses dents.
« Où diantre as-tu pris ce museau de chatte amoureuse ? » fit-elle à la fin,
et elle se mit à la regarder. Germinie était laide. Ses cheveux, d'un châtain foncé et qui paraissait noir, frisotaient et se tortillaient en ondes revêches, en petites mèches dures et rebelles, échappées et soulevées sur sa tête, malgré la pommade de ses bandeaux lissés. Son front petit, poli, bombé, s'avançait de l'ombre d'orbites profondes où s'enfonçaient et se cavaient presque maladivement ses yeux, de petits yeux éveillés, scintillants, rapetissés et ravivés par un clignement de petites filles qui mouillaient et allumaient leur rire. Ses yeux, on ne les voyait ni bruns ni bleus. Ils étaient d'un gris indéfinissable et changeant, d'un gris qui n'était pas une couleur, mais une lumière. L'émotion y passait dans le feu de la fièvre, le plaisir dans l'éclair d'une sorte d'ivresse, la passion dans une phosphorescence. Son nez court, relevé, largement troué, avec les narines ouvertes et respirantes, était de ces nez dont le peuple dit qu'il pleut dedans. Sur l'une de ses ailes, à l'angle de l'œil, une grosse veine bleue se gonflait. La carrure de tête de la race lorraine se retrouvait dans ses pommettes larges, fortes, accusées, semées d'une volée de grains de petite vérole. La plus grande disgrâce de ce visage était la trop large distance entre le nez et la bouche. Cette disproportion donnait un caractère presque simiesque au bas de la tête, où une grande bouche, aux dents blanches, aux lèvres pleines, plates et comme écrasées, souriait d'un sourire étrange et vaguement irritant. Sa robe décolletée laissait voir son cou, le haut de sa poitrine, ses épaules, la blancheur de son dos, contrastant avec le hâle de son visage. C'était une blancheur de lymphatique, la blancheur à la fois malade et angélique d'une chair qui ne vit pas. Elle avait laissé tomber ses bras le long d'elle, des bras ronds, polis, avec le joli trou d'une fossette au coude. Ses poignets étaient délicats. Ses mains, qui ne sentaient pas le service, avaient des ongles de femme. Et mollement, dans une paresse de grâce, elle laissait jouer et rondir sa taille indolente, une taille à tenir dans une jarretière et que faisait plus fine encore à l'œil le ressaut des hanches et le rebondissement des rondeurs ballonnant la robe. Une taille impossible, ridicule de minceur, adorable comme tout ce qui, chez la femme, a la monstruosité de la petitesse. De cette femme laide, s'échappait une âpre et mystérieuse séduction. L'ombre et la lumière, se heurtant et se brisant à son visage plein de creux et de saillies, y mettaient ce rayonnement de volupté jeté par un peintre d'amour dans la pochade du portrait de sa maîtresse. Tout en elle, sa bouche, ses yeux, sa laideur même, avait une provocation et une sollicitation. Un charme aphrodisiaque sortait d'elle, qui s'attaquait et s'attachait à l'autre sexe. Elle dégageait le désir et en donnait la commotion. Une tentation sensuelle s'élevait naturellement et involontairement d'elle, de ses gestes, de sa marche, du moindre de ses remuements, de l'air où son corps avait laissé une de ses ondulations. À côté d'elle, on se sentait près d'une de ces créatures troublantes et inquiétantes, brûlantes du mal d'aimer et l'apportant aux autres, dont la figure revient à l'homme aux heures inassouvies, tourmente ses pensées lourdes de midi, hante ses nuits, viole ses songes. Au milieu de l'examen de Mademoiselle de Varandeuil, Germinie se baissa, se pencha sur elle et lui embrassa la main à baiser pressé. « Bon, bon, assez de lichade, » dit mademoiselle. « Tu vous userais la peau avec ta façon d'embrasser. Allons, pars, amuse-toi, et tâche de ne pas rentrer trop tard. Ne t'éreinte pas. » Mademoiselle de Varandeuil resta seule. Elle mit ses coudes sur ses genoux, regarda dans le feu, donna des coups de pincette sur les tisons. Puis, comme elle avait l'habitude de faire dans ses grandes préoccupations, du plat de sa main, elle se frappa sur la nuque deux ou trois petits coups secs qui mirent tout de travers son serre-tête noir. Chapitre 6. En parlant mariage à Germinie, Mademoiselle de Varandeuil touchait la cause du mal de Germinie. Elle mettait la main sur son ennui. L'irrégularité d'humeur de sa bonne, les dégoûts de sa vie, les langueurs, le vide et le mécontentement de son être venaient de cette maladie que la médecine appelle la mélancolie des vierges. La souffrance de ses 24 ans était le désir ardent, irrité, poignant du mariage, de cette chose trop saintement honnête pour elle, et qui lui semblait impossible devant l'aveu que sa probité de femme voulait faire de sa chute, de son indignité. Des pertes, des malheurs de famille venaient l'arracher à ses idées. Son beau-frère, le mari de sa sœur la portière, avait fait le rêve des Auvergnats. Il avait voulu joindre au profit de sa loge les gains du commerce de bric-à-brac. Il avait commencé modestement par cet étal dans la rue, aux portes des ventes après décès, où l'on voit, rangés sur du papier bleu, des flambeaux en plaqué, des ronds de serviettes en ivoire, des lithographies coloriées, encadrées d'une dentelle d'or sur fond noir, et trois ou quatre volumes dépareillés de Buffon. Ce qu'il gagna sur les flambeaux en plaqué le grisa. Il loua dans une allée de passage, en face d'un raccommodeur de parapluies, une boutique noire, et il se mit à faire là le commerce de cette curiosité qui va et vient dans les salles basses de l'hôtel des commissaires priseurs. Il vendit des assiettes à coque, des morceaux du sabot de Jean-Jacques Rousseau, et des aquarelles de Balu signées Watteau. À ce métier, il mangea ce qu'il avait gagné, puis s'endetta de quelques 1000 francs. Sa femme, pour remonter un peu le ménage et tâcher de sortir des dettes, demandait et obtenait une place d'ouvreuse de loge au théâtre historique. Elle faisait garder le soir sa porte par sa sœur la couturière, se couchait 1 heure, se levait à 5. Au bout de quelques mois, elle attrapa dans les corridors du théâtre une pleurésie qui traîna et l'enleva au bout de 6 semaines. La pauvre femme laissait une petite fille de 3 ans, attaquée d'une rougeole qui avait pris le caractère le plus pernicieux dans l'empuantissement de la soupente et dans l'air où l'enfant respirait depuis plus d'un mois la mort de sa mère. Le père était parti au pays pour tâcher d'emprunter de l'argent. Il se remariait là-bas. On n'en eut plus de nouvelles. En sortant de l'enterrement de sa sœur, Germinie courut chez une vieille femme vivant de ces curieuses industries qui empêchent à Paris la misère de mourir complètement de faim. Cette vieille femme faisait plusieurs métiers. Tantôt elle coupait d'égale grandeur des crins de brosse, tantôt elle séparait des morceaux de pain d'épices. Quand cela chômait, elle faisait la cuisine et débarbouillait les enfants de petits marchands ambulants. Dans le carême, elle se levait à 4 heures du matin et allait prendre à Notre-Dame une chaise qu'elle revendait, lorsque le monde arrivait, 10 ou 12 sous. Pour se chauffer, dans le trou où elle logeait rue Saint-Victor, elle allait, à l'heure où le jour tombe, arrachée en se cachant de l'écorce aux arbres du Luxembourg. Germinie, qui la connaissait pour lui donner toutes les semaines les croûtes de la cuisine, lui louait une chambre de domestique dans la maison au 6e et l'y installait avec la petite fille. Elle fit cela d'un premier mouvement sans réfléchir. Les duretés de sa sœur lors de sa grossesse, elle ne se les rappelait plus. Elle n'avait pas même eu besoin de les pardonner. Germinie n'eut plus alors qu'une pensée, sa nièce. Elle voulait la faire revivre et l'empêcha de mourir à force de la soigner. Elle s'échappait à tout moment de chez mademoiselle, grimpait 4 à 4 au 6e, courait embrasser l'enfant, lui donner de la tisane, la ranger dans son lit, la voir, redescendait essoufflée et toute rouge de plaisir. Les soins, les caresses, ce souffle du cœur dont on ranime un petit être prêt à s'éteindre, les consultations, les visites de médecins, les médicamentations coûteuses, les remèdes des riches, Germinie n'épargna rien pour la petite et lui donna tout. Ses gages passaient à cela. Pendant près d'un an, elle lui fit prendre tous les matins du jus de viande. Elle, qui était dormeuse, se levait à 5 heures du matin pour le faire, et elle se réveillait toute seule, comme les mères. L'enfant était enfin sauvé, quand un matin, Germinie reçut la visite de sa sœur la couturière, qui était mariée depuis 2 ou 3 ans avec un ouvrier mécanicien, et qui venait lui faire ses adieux. Son mari suivait des camarades qu'on venait d'embaucher pour aller en Afrique. Elle partait avec lui et proposait à Germinie de lui prendre la petite et de l'emmener là-bas avec son enfant. Il s'en chargeait. Germinie n'aurait qu'à payer le voyage. C'était une séparation à laquelle il lui faudrait toujours se résoudre à cause de sa maîtresse. Puis elle était sa tante aussi. Et elle ajoutait parole sur parole pour se faire donner l'enfant avec lequel elle et son mari comptaient, une fois en Afrique, apitoyer Germinie, lui attraper ses gages, lui carotter le cœur et la bourse. Se séparer de sa nièce, cela coûtait beaucoup à Germinie. Elle avait mis un peu de son existence sur cet enfant. Elle s'y était attachée par les inquiétudes et les sacrifices. Elle l'avait disputée et reprise à la maladie. Cette vie de la petite fille était son miracle. Cependant, elle comprenait qu'elle ne pourrait jamais la prendre chez mademoiselle. Que mademoiselle, à son âge, avec la fatigue de ses années et le besoin de tranquillité des vieilles gens, ne supporterait jamais le bruit toujours remuant d'un enfant. Puis cette petite fille dans la maison prêtait au cancan et faisait causer toute la rue. On disait que c'était sa fille. Germinie s'en ouvrit à sa maîtresse. Mademoiselle de Varandeuil savait tout. Elle savait qu'elle avait pris sa nièce, mais elle avait fait semblant de l'ignorer. Elle avait voulu fermer les yeux et ne rien voir pour tout permettre. Elle conseilla à Germinie de confier sa nièce à sa sœur, en lui montrant toutes les impossibilités de la garder, et lui donna l'argent pour payer le voyage du ménage. Ce départ fut un déchirement pour Germinie. Elle se trouva isolée et inoccupée. N'ayant plus cet enfant, elle ne sut plus quoi aimer. Son cœur s'ennuya. Et, dans le vide d'âme où elle se trouvait sans cette petite, elle revint à la religion et reporta ses tendresses à l'église. Au bout de 3 mois, elle reçut la nouvelle de la mort de sa sœur. Le mari, qui était de la race des ouvriers géniards et pleurards, lui faisait dans sa lettre, avec de grosses phrases émues et des ficelles d'attendrissement, un tableau désolant de sa position, avec l'enterrement à payer, des fièvres qui l'empêchaient de travailler, 2 enfants en bas âge, sans compter la petite, une maison sans femme pour faire chauffer la soupe. Germinie pleura sur la lettre. Puis sa pensée se mit à vivre dans cette maison, à côté de ce pauvre homme, au milieu des pauvres enfants, dans cet affreux pays d'Afrique. Et une vague envie de se dévouer commença à s'éveiller en elle. D'autres lettres suivaient, où, en la remerciant de ses secours, son beau-frère donnait à sa misère, à l'abandon où il se trouvait, au malheur qui l'enveloppait, une couleur encore plus dramatique, la couleur que le peuple donne aux choses avec ses souvenirs du boulevard du crime et ses lambeaux de mauvaise lecture. Une fois prise à la blague de ce malheur, Germinée ne put s'en détacher. Elle croyait entendre, là-bas, des cris d'enfants l'appeler. Elle s'enfonçait, s'absorbait dans la résolution et le projet de partir. Elle était poursuivie de cette idée et de ce mot d'Afrique qu'elle remuait et retournait sans cesse au fond d'elle, sans une parole. Mademoiselle de Varandeuil, la voyant si rêveuse et si triste, lui demanda ce qu'elle avait, mais en vain. Germinée ne parla pas. Elle était tiraillée, torturée, entre ce qui lui semblait un devoir et ce qui lui paraissait une ingratitude, entre sa maîtresse et le sang de ses sœurs. Elle pensait qu'elle ne pouvait pas quitter mademoiselle. Et puis elle se disait que Dieu ne voulait pas qu'elle abandonnât sa famille. Elle regardait l'appartement en se disant « Il faut pourtant que je m'en aille ». Et puis elle avait peur que mademoiselle ne fût malade quand elle ne serait plus là. Une autre bonne. À cette idée, elle était prise de jalousie. Et elle croyait déjà voir quelqu'un lui voler sa maîtresse. À d'autres moments, ses idées de religion la jetant à des idées d'immolation, elle était toute prête à vouer son existence à celle de ce beau-frère. Elle voulait aller habiter avec cet homme qu'elle détestait, avec lequel elle avait toujours été mal, qui avait à peu près tué sa sœur de chagrin, qu'elle savait ivrogne et brutale. Et tout ce qu'elle en attendait, tout ce qu'elle en craignait, la certitude et la peur de tout ce qu'elle aurait à souffrir, ne faisait que l'exalter, l'enflammer, la pousser au sacrifice avec plus d'impatience et d'ardeur. Tout cela, souvent, en un instant, tombait. À un mot, à un geste de mademoiselle, Germinie revenait à elle-même et ne se reconnaissait plus. Elle se sentait tout entière et pour toujours rattachée à sa maîtresse. Et elle éprouvait comme une horreur d'avoir seulement pensé à détacher sa vie de la sienne. Elle lutta ainsi 2 ans. Puis un beau jour, par un hasard, elle apprit que sa nièce était morte quelques semaines après sa sœur. Son beau-frère lui avait caché cette mort, pour la tenir et l'attirer à lui, avec ses quelques sous, en Afrique. À cette révélation, Germinie, perdant toute illusion, fut guérie d'un seul coup. À peine si elle se rappela qu'elle avait voulu partir. Chapitre 7. Vers ce temps, au bout de la rue, une petite crèmerie sans affaires changeait de propriétaire à la suite de la vente du fonds par autorité de justice. La boutique était restaurée. On la repeignait. Les vitres de la devanture s'ornaient d'inscriptions en lettres jaunes. Des pyramides de chocolat de la compagnie coloniale, des bols de café à fleurs, espacés de petits verres à liqueur, garnissaient les planches de l'étalage. À la porte brillait l'enseigne d'un pot-au-lait de cuivre coupé par le milieu. La femme qui essayait de remonter ainsi la maison, la nouvelle crémière, était une personne d'une 50aine d'années, débordante d'embonpoint et gardant encore quelques restes de beauté à demi submergés sous sa graisse. On disait dans le quartier qu'elle s'était établie avec l'argent d'un vieux monsieur qu'elle avait servi jusqu'à sa mort dans son pays près de Langres, car il se trouvait qu'elle était payse de Germinie, non du même village, mais d'un petit endroit à côté. Et sans s'être jamais rencontrée ni vue là-bas, elle et la bonne de mademoiselle se connaissaient de nom et avaient le rapprochement de connaissances communes, de souvenirs des mêmes lieux. La grosse femme était complimenteuse, doucereuse, caressante. Elle disait « Ma belle !» faisait la petite voix et jouait l'enfant avec la langueur dolente des personnes corpulentes. Elle détestait les gros mots, rougissait, s'effarouchait pour un rien. Elle adorait les secrets, tournait tout en confidence, faisait des histoires, parlait toujours à l'oreille. Sa vie se passait à bavarder et à gémir. Elle plaignait les autres, elle se plaignait elle-même. Elle se lamentait sur ses malheurs et sur son estomac. Quand elle avait trop mangé, elle disait dramatiquement « Je vais mourir !» Et rien n'était aussi pathétique que ses indigestions. C'était une nature perpétuellement attendrie et larmoyante. Elle pleurait indistinctement pour un cheval battu, pour quelqu'un qui était mort, pour du lait qui avait tourné. Elle pleurait sur les faits divers des journaux, elle pleurait en voyant passer des passants. Germinie fut bien vite séduite et apitoyée par cette crémière câline, bavarde, toujours émue, appelant à elle l'expansion des autres et paraissant si tendre. Au bout de 3 mois, presque rien n'entrait chez mademoiselle qui ne vint de chez la mère Jupillon. Germinie s'y fournissait de tout ou à peu près. Elle passait des heures dans la boutique. Une fois là, elle avait peine à s'en aller. Elle restait et ne pouvait se lever. Une lâcheté machinale la retenait. Sur la porte, elle causait encore pour n'être pas encore partie. Elle se sentait attachée chez la crémière par l'invisible charme des endroits où l'on revient sans cesse et qui finissent par vous étreindre comme des choses qui vous aimeraient. Et puis la boutique, pour elle, c'était les 3 chiens, les 3 vilains chiens de mademoiselle Jupillon. Elle les avait toujours sur les genoux, elle les grondait, elle les embrassait, elle leur parlait. Et quand elle avait chaud de leur chaleur, il lui passait dans le bas du cœur les contentements d'une bête qui se frotte à ses petits. La boutique, c'était encore pour elle toutes les histoires du quartier, le rendez-vous des cancans, la nouvelle du billet non payé par celle-ci, de la voiture de fleurs apportée à celle-là, un endroit à l'affût de tout, et où tout entrait, jusqu'au peignoir de dentelle allant en ville sur le bras d'une bonne. Tout, à la longue, la liait là. Son intimité avec la crémière se resserrait par tous les liens mystérieux des amitiés de femmes du peuple, par le bavardage continuel, l'échange journalier des riens de la vie, les conversations pour parler, le retour du même bonjour et du même bonsoir, le partage des caresses aux mêmes animaux, les sommeils côte à côte et chaise contre chaise. La boutique finit par devenir son lieu d'accoquinement, un lieu où sa pensée, sa parole, ses membres même et son corps trouvaient des aises merveilleuses. Le bonheur arriva à être, pour elle, ce moment où le soir, assise et somnolente dans un fauteuil de paille, auprès de la mère Jupillon endormie, ses lunettes sur le nez, elle berçait les chiens roulés en boule dans la jupe de sa robe. Et tandis que la lampe, prête à mourir, pâlissait sur le comptoir, elle restait, laissant son regard se perdre et s'éteindre doucement, avec ses idées, au fond de la boutique, sur l'arc de triomphe en coquille d'escargot, relié de vieilles mousses, sous l'arc duquel était un petit Napoléon de cuivre. Chapitre 8. Madame Jupillon, qui disait avoir été mariée et signait veuve Jupillon, avait un fils. C'était encore un enfant. Elle l'avait mis à Saint-Nicolas, dans cette grande maison d'éducation religieuse où, pour 30 francs par mois, une instruction rudimentaire et un métier sont donnés aux enfants du peuple, à beaucoup d'enfants naturels. Germinie prit l'habitude d'accompagner le jeudi Madame Jupillon lorsqu'elle allait voir Bibi. Cette visite devint pour elle une distraction et une attente. Elle faisait dépêcher la mère, arrivait en avance à l'omnibus et elle était toute contente d'y monter avec un gros panier de provisions sur lequel elle croisait ses bras pendant la route. Là-dessus, il arriva à la mère Jupillon un mal à la jambe, un anthrax qui l'empêcha de marcher pendant près de 18 mois. Germinie alla seule à Saint-Nicolas, et comme elle était prompte et facile à se donner aux autres, elle s'occupa de cet enfant comme s'il lui tenait par quelque chose. Elle ne manquait pas un jeudi, et arrivait toujours les mains pleines de la desserte de la semaine, de gâteaux, de fruits, de sucreries qu'elle achetait. Elle embrassait le gamin, s'inquiétait de sa santé, tâtait s'il avait son gilet de tricot sous sa blouse, le trouvait trop rouge d'avoir couru, lui essuyait la figure avec son mouchoir, et lui faisait montrer le dessous de ses souliers pour voir s'il n'était pas troué. Elle lui demandait si on était content de lui, s'il faisait bien ses devoirs, s'il avait eu beaucoup de bons points. Elle lui parlait de sa mère et lui recommandait de bien aimer le bon Dieu. Et jusqu'à ce que la cloche de 2 heures sonna, elle se promenait avec lui dans la cour. L'enfant lui donnait le bras, tout fier d'être avec une femme mieux habillée que la plupart de celles qui venaient, avec une femme en soie. Il avait envie d'apprendre le flageolet. Cela ne coûtait que 5 francs par mois, mais sa mère ne voulait pas les donner. Germinie, en cachette, lui apporta chaque mois les 100 sous. C'était une humiliation pour lui, quand il sortait en promenade, et les 2 ou 3 fois par an qu'il venait chez sa mère, de porter la petite blouse d'uniforme. À sa fête, une année, Germinie déplia devant lui un gros paquet. Elle lui avait fait faire une tunique. À peine si, dans toute la pension, 20 de ses camarades étaient de famille assez aisée pour en porter. Elle le gâta ainsi quelques années, ne le laissant souffrir du désir de rien, flattant dans l'enfant pauvre les caprices et les orgueils de l'enfant riche, lui adoucissant les privations et les duretés de cette école professionnelle qui forme à la vie ouvrière, porte la blouse, mange à l'assiette de faïence brune, et trempe à son mal apprentissage le peuple pour le travail. Cependant, le garçon grandissait. Germinie ne s'en apercevait pas. Elle le voyait toujours enfant. Par habitude, elle se baissait toujours pour l'embrasser. Un jour, elle fut appelée devant l'abbé qui dirigeait la pension. L'abbé lui parla de renvoyer le jeune Jupillon. Il s'agissait de mauvais livres surpris entre ses mains. Germinie, tremblante à l'idée des coups qui attendaient l'enfant chez sa mère, pria, supplia, implora. Elle finit par obtenir de l'abbé la grâce du coupable. En redescendant, elle voulut gronder Jupillon. Mais au premier mot de sa morale, Bibi lui jeta tout à coup en plein visage un regard et un sourire où il n'y avait plus rien de l'enfant qu'il était hier. Elle baissa les yeux et ce fut elle qui rougit. 15 jours se passèrent sans qu'elle revînt à Saint-Nicolas. Chapitre 9. Dans le temps où le fils Jupillon sortit de pension, la bonne d'une femme entretenue qui demeurait au-dessous de Mademoiselle venait quelquefois passer la soirée chez Madame Jupillon avec Germinie. Originaire de ce grand-duché de Luxembourg qui fournit Paris de cochers, de coupés et de bonnes de Lorette, cette fille était ce que l'on appelle populacièrement une grande bringue. Elle avait un air de cavale, des sourcils de porteur d'eau, des yeux fous. Elle se mit bientôt à venir tous les soirs. Elle payait des gâteaux et des petits verres à tout le monde, s'amusait à faire gaminer le petit Jupillon, jouait avec lui des jeux de main, s'asseyait sur lui jetait au nez qu'il était beau, le traitait en enfant et le plaisantait en polissonnant, de n'être pas encore un homme. Le jeune garçon, heureux et tout fier de ses attentions de la première femme qui s'occupait de lui, laissait voir au bout de peu de temps ses préférences pour Adèle. Ainsi s'appelait la nouvelle venue. Germinie était passionnément jalouse. La jalousie était le fond de sa nature. C'était la lie et l'amertume de ses tendresses. Ceux qu'elle aimait, elle voulait les avoir tout à elle, les posséder absolument. Elle exigeait qu'ils n'aimassent qu'elle. Elle ne pouvait admettre qu'ils pussent distraire et donner à d'autres la moindre parcelle de leur affection. Cette affection, depuis qu'elle l'avait méritée, n'était plus à eux. Ils n'étaient plus maîtres d'en disposer. Elle détestait les gens que sa maîtresse avait l'air de recevoir mieux que les autres et d'accueillir intimement. Par sa mine de mauvaise humeur et son air rechigné, elle avait éloigné, à peu près chassé de la maison, deux ou trois vieilles amies de mademoiselle, dont les visites la faisaient souffrir, comme si ces vieilles femmes venaient dérober quelque chose dans l'appartement, lui prendre un peu de sa maîtresse. Des gens qu'elle avait aimés lui étaient devenus odieux. Elle n'avait pas trouvé qu'ils l'aimassent assez. Elle les haïssait pour tout l'amour qu'elle avait voulu d'eux. En tout, son cœur était exigeant et despote. Donnant tout, il demandait tout. Dans ses affections, au moindre indice de refroidissement, au moindre signe de partage, elle éclatait et se dévorait, passait des nuits à pleurer, prenait le monde en exécration. Voyant cette femme s'installer dans la boutique, se familiariser avec le jeune homme, toutes les jalousies de Germinie s'inquiétèrent et se tournèrent en rage. Sa haine se souleva et se révolta, avec son dégoût, contre cette créature affichée, éhontée, que l'on voyait le dimanche attablée sur les boulevards extérieurs avec des militaires, et qui avait le lundi des bleus au visage. Elle employa tout pour la faire éloigner par Madame Jupillon. Mais c'était une des meilleures pratiques de la crèmerie, et la crémière se refusa tout doucement à l'écarter. Germinie se retourna vers le fils, lui dit que c'était une malheureuse. Mais cela ne fit qu'attacher le jeune homme à cette vilaine femme, dont la mauvaise réputation le flattait. D'ailleurs, il avait les cruelles taquineries de la jeunesse, et il redoublait d'amabilité auprès d'elle, rien que pour voir le nez que faisait Germinie et jouir de la désolée. Bientôt, Germinie s'aperçut que cette femme avait des intentions plus sérieuses qu'elle ne s'était d'abord imaginées. Elle comprit ce qu'elle voulait de cet enfant, car c'était toujours un enfant pour elle que ce grand jeune homme de 17 ans. Dès lors, elle s'attacha à leurs pas. Elle ne les quitta plus. Elle ne les laissa pas un moment seuls. Elle se mit de leur parti, au théâtre, à la campagne, entra dans toutes leurs promenades, fut toujours là, présente et gênante, essayant de retenir la bonne et de lui rendre la pudeur avec un mot à voix basse. « Un enfant, tu n'as pas honte !» lui disait-elle. L'autre, comme à une bonne farce, partait d'un gros rire. Dans ses sorties du spectacle, animée et chauffée par la fièvre de la représentation et l'excitation du théâtre, dans ses retours de la campagne, chargée du soleil de tout le jour, grisée de ciel et de grand air, fouettée du vin du dîner, au milieu des jeux et des libertés auxquelles s'enhardissent à la nuit les ivresses de plaisir, les joies de ripaille et les sens en goguette de la femme du peuple, Germinie essayait d'être toujours entre la bonne et Jupillon. Elle tâchait à chaque minute de rompre ses amours bras-dessus, bras-dessous, de les délier, de les désaccoupler. Sans se lasser, elle les séparait, les retirait continuellement l'un de l'autre. Elle mettait son corps entre ces corps qui se cherchaient. Elle se glissait entre ces gestes qui voulaient se toucher. Elle se glissait entre ses lèvres tendues et ses bouches qui s'offraient. Mais de tout ce qu'elle empêchait, elle avait l'effleurement et la teinte. Elle sentait le frôlement de ses mains qu'elle séparait, de ses caresses qu'elle arrêtait au passage et qui se trompaient en s'égarant sur elle. Des baisers qu'elle dénouait, il lui passait contre la joue le souffle et l'haleine. Sans le vouloir, et troublée d'une certaine horreur, elle se mêlait aux étreintes. Elle prenait une part des désirs dans ce frottement et cette lutte qui diminuait chaque jour autour de sa personne le respect et la retenue du jeune homme. Il arriva qu'un jour, elle fut moins forte contre elle-même qu'elle n'avait été jusque-là. Cette fois, elle ne se déroba pas si brusquement aux avances. Jupillon sentit qu'elle s'y arrêtait. Germinie le sentit mieux que lui. Mais elle était à bout d'efforts et de tourments, épuisée de souffrir. Cet amour d'une autre, qu'elle avait détourné de Jupillon, elle se l'était lentement entré tout entier dans le cœur. Maintenant, il y était enfoncé, et toute saignante de jalousie, elle se trouvait affaiblie, sans résistance, défaillante comme une personne blessée à mort devant le bonheur qui lui venait. Pourtant, elle repoussa les tentatives, les hardiesses du jeune homme, sans rien dire, sans parler. Elle ne songeait pas à lui appartenir autrement ni à se livrer davantage. Elle vivait de la pensée d'aimer, croyant qu'elle en vivrait toujours. Et dans le ravissement qui lui soulevait l'âme, elle écartait sa chute et repoussait ses sens. Elle demeurait frémissante et pure, perdue et suspendue dans des abîmes de tendresse, ne goûtant et ne voulant de l'amant que la caresse, comme si son cœur n'était fait que pour la douceur d'embrasser.